Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel.
Bonjour et bienvenue dans Dialogue numéro 5. Bonjour François Sorel.
Bonjour Jérôme Colombin, bonjour à toutes et à tous. Dialogue, c'est tous les mardis, toute l'actualité des nouvelles technologies, exclusivement disponible sur le net.
Uniquement en téléchargement. Cette semaine, on va parler de téléphonie mobile.
Toi, t'es allé à Barcelone, toi.
Toi aussi, non?
Ah oui, c'est vrai.
Avec un virage très important, notamment grâce à Skype.
Ouais. Et puis, on parlera aussi de la Xbox 360. Jérôme, ça fait 3 mois que cette console est sortie.
C'est du jeu vidéo, mais bien plus que ça encore.
Ouais, on l'a testé, on vous dira ce qu'on en pense, vraiment.
Et puis, on finira sur le dossier de la semaine consacré aux RFID, les étiquettes intelligentes, avec des usages divers et variés qui peuvent parfois poser problème.
Jérôme, tu chantes très très bien.
Oui, je suis assez inspiré là.
Oui, t'es inspiré. Ceci dit, les constructeurs de téléphones portables étaient très inspirés aussi hein, à Barcelone lors de ce 3GSM. C'était le premier d'ailleurs. Hein,
puisque ça se passait effectivement cette fois en Espagne. Ouais. Jusqu'à présent, c'était à Cannes. Donc beaucoup de choses cette année sur la télévision sur mobile,
actualité. Voilà. C'est vrai que tous les constructeurs présentaient leurs prototypes de téléphone portable avec la télévision et le DVB-H entre autres.
Voilà.
Et puis on a beaucoup aussi parlé de voix sur IP. Et quand on parle de voix sur IP, forcément, qui nous vient à l'esprit Jérôme ?
Skype, ce système qui permet de téléphoner gratuitement de PC à PC et qui débarque maintenant sur les téléphones mobiles.
Alors, on a voulu en savoir plus et on a questionné Jérôme Archambault qui est le country manager de Skype France. Et puis à noter aussi, ça c'est intéressant que toutes ces interviews que nous faisons dans ce podcast, Jérôme, sont faites par...
Par Skype, justement, hein, puisque la plupart du temps, nos intervenants sont là au bout de leur PC.
Voilà. Et Jérôme Archambault, bonjour.
Bonjour.
Ça veut dire que demain, on pourra téléphoner via Skype grâce à son téléphone portable ?
Tout à fait. C'est vraiment l'évolution, je dirais, presque naturelle de l'écosystème Skype. Aujourd'hui, on était vraiment centralisé autour du PC et demain on va passer sur tout type de terminaux mobiles qui seront reliés à l'internet par une connexion Wi-Fi, WiMAX ou 3G.
Est-ce que ça veut dire que Skype aujourd'hui est concurrent des opérateurs de téléphonie mobile ?
Alors pour certains opérateurs de téléphonie mobile, oui. Pour la plupart des opérateurs de téléphonie qui proposent des accès donc 3G, non. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces opérateurs se positionnent plutôt comme fournisseurs d'accès Internet mobile, donc 3G, et considèrent que Skype, à juste titre, est une application qui va faire tourner leur service, ou attirer en tout cas des consommateurs vers la 3G.
Donc en fait, cela veut dire que ce qu'on a vécu dans la téléphonie fixe, Jérôme Archambault, va arriver en fait sur la téléphonie mobile, le fait qu'on ait ces communications illimitées ?
C'est exactement ça. Jusqu'à maintenant, les opérateurs ont toujours voulu un peu tout faire, c'est-à-dire contrôler le tuyau et puis contrôler tous les services et les produits qui circulaient sur ce tuyau, qui étaient mis à disposition des consommateurs. Donc je veux contrôler l'offre et je veux contrôler l'accès. Dans le domaine de l'Internet, c'est pas du tout ça. Vous voyez beaucoup de fournisseurs d'accès Internet qui simplement fournissent un accès avec un débit et quelques services qu'ils agrègent, mais disons qu'il n'y a pas une volonté de tout contrôler.
Vous allez donc maintenant essayer de convaincre les opérateurs de ce point de vue, parce que c'est peut-être pas gagné d'avance.
Je pense qu'aujourd'hui, il est évident que la plupart des opérateurs perçoivent le sens de l'histoire, perçoivent l'intérêt pour le marché et pour les consommateurs, et je pense que, on peut affirmer de toute façon que, en ce qui nous concerne, nous allons multiplier les accords avec des opérateurs au cours de l'année 2006.
Merci Jérôme Archambault. Alors on voit François qui va encore se passer des choses en téléphonie mobile.
C'est une révolution qui est en train de se créer là. Hein. Le modèle économique des opérateurs de téléphonie mobile va évoluer et à mon avis, c'est le consommateur qui va y gagner.
Oui, parce qu'en principe, c'est vrai que la téléphonie sur IP contribue à une baisse des prix, même s'il faut faire un peu attention parfois.
Hein. Oui, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur le fixe.
Exact.
Dialogue, la chronique des nouvelles technologies.
Bon François, je t'ai battu hier soir.
Pour une fois, Jérôme. C'est vrai que pour une fois, tu m'as battu à un jeu vidéo. Incroyable.
Course de voiture, on était chacun chez soi, toi chez toi, moi chez moi.
PGR 3.
Et ça marchait très bien par internet sur la Xbox 360.
Et on va vous en parler de cette Xbox 360 parce que ça fait 3 mois qu'on a la chance avec Jérôme de pouvoir la tester de fond en comble. On est fan de jeux vidéo, on a un petit peu testé tous les aspects de cette console, à la fois le jeu vidéo mais aussi les fonctions multimédia qui sont assez avancées.
Donc la nouvelle console de Microsoft, alors on parle de quoi d'abord ? Des défauts ou des qualités ?
Bah écoute, on parle des défauts et on garde le meilleur pour la fin.
Ok, premier problème, elle est super bruyante.
Elle est super bruyante, ça. Alors ça, t'as raison.
C'est le ventilateur là qui.
Ah oui, mais
parce
c'est...
qu'elle est puissante, donc puissance, il faut rafraîchir et rafraîchissement, bruit.
Exactement. Alors quand vous jouez un jeu vidéo, on sent pas trop parce qu'on est dans l'effervescence du jeu, ça va. Mais quand vous regardez un DVD, ça m'est arrivé il y a quelques jours avec une somme un peu
intimiste,
vous voyez, ouais, où il y a pas de bruit.
Love, love.
Là, vous entendez le petit aspirateur quand même qui est là. Et c'est la Xbox 360 qui vous dit, eh oh, je suis là. Et DVD, c'est grâce à moi que tu le regardes. Hein.
Ok, l'avantage quand même, c'est que c'est la première plateforme haute définition pour les écrans compatibles.
Voilà, on a un écran HD, on branche la console et là, bah, c'est l'éclate. Quoi.
C'est, wow.
On s'en prend plein les yeux. C'est le premier appareil qui, branché sur un écran HD, peut nous permettre d'avoir de la haute définition. Hein. Mmh. Des vidéos qu'on peut télécharger via le Xbox Live, mais on peut avoir du contenu en HD. Et puis, il y a les jeux aussi, Jérôme, qui, pour certains, nous ont scotché. Hein.
De très bons titres, mais c'est assez inégal. Il faut avouer que le catalogue est quand même encore assez maigre, hein, et il y a quelques titres qui sont pas terribles. On a l'impression que les développeurs n'ont pas encore complètement pris en main ce nouvel outil et qu'ils ne savent pas encore en tirer toute la puissance.
Ceci dit, rappelle-toi de la PlayStation 2.
C'était pareil.
Ses premiers jeux n'étaient pas géniaux. Hein. Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour que les programmeurs arrivent à faire quelque chose de bien avec les jeux.
Alors on va rappeler que les jeux vidéo, c'est pas que pour les gamins quand même.
Non.
C'est pour ça qu'on en parle dans ce podcast d'ailleurs, vu notre âge avancé. Et...
Enfin, surtout toi.
C'est la preuve.
Mais ce qui est important, c'est que c'est vrai que c'est une console qui coûte cher, hein, encore aujourd'hui.
Et 400€ en version complète.
Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Moi, je dis oui. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir dans cette console de jeu.
Ben oui, parce qu'en plus, pendant pas mal de temps encore, ça va rester la machine la plus puissante sur le marché, puisque la PS3, la PlayStation, va être retardée, visiblement.
Donc Microsoft aura bien le temps de s'installer avec cette console de nouvelle génération.
Et y compris au Japon, où ça se passe pas très bien. Hein. Les ventes sont pas bonnes pour le début.
D'ailleurs, ils ont viré le directeur marketing
de
Microsoft Japon.
Hein.
Là, ils en ont vendu quelques milliers, c'est tout.
Mais c'est
hein.
normal, ils sont sur le terrain de Sony, de Nintendo. Ça avait été très dur également pour la première Xbox.
Et puis la culture Microsoft des jeux ne plaît pas aux Japonais, en fait. Hein. Il
n'y
a pas la même
truc.
Culture de jeu.
On dit un mot aussi de l'aspect Media Center, parce que cette machine permet aussi de récupérer, pour les regarder sur sa télé, les photos, les vidéos, la musique aussi, qu'on a sur son PC chez soi.
Alors, je ne sais pas si tu as testé.
Oui, bah, ça ne marche pas. Enfin, non, on ne va pas être méchant, mais c'est vrai que c'est très difficile de relier les deux, hein, il faut l'avouer.
On sent que tout ça est véritablement bridé par Microsoft, qui a une hantise, c'est les droits. En revanche, pour tout ce qui est photo, ça fonctionne. J'ai eu des problèmes aussi pour rapatrier des chansons aussi qui étaient sur mon ordinateur. Je voulais écouter sur ma Xbox 360. Ça marchait pas très très bien. Alors peut-être qu'il y avait une erreur de configuration.
C'est vrai qu'il faut bidouiller, il faut aller dans les forums.
C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais en matière de jeux vidéo, franchement, c'est bien.
Et il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'elle s'allume et elle s'éteint à distance avec la manette de jeu.
Ouais.
Ça, c'est super pratique.
Et puis moi, mon coup de cœur du
sans
moment,
fil.
Mon coup de cœur du moment, c'est Ridge Racer 6, hein, qui vient de sortir, qui est un jeu de bagnole incroyable, un vrai jeu d'arcade. Alors, en revanche, on a essayé de jouer tous les deux, Jérôme, en réseau
sur
le Xbox Live,
oui,
et là, ça marche pas. Les voitures saccadent, il y a des problèmes de latence. C'est pas terrible.
Bon.
À mon avis, il y aura
Monsieur Microsoft, si tu nous entends, il faudra arranger ça très vite.
Voilà.
Dialogue, François Sorel, Jérôme Colombin.
Bon Jérôme, s'il te plaît, laisse tomber la manette de ta Xbox 360, on va parler de RFID maintenant. Alors c'est une technologie qui est en plein devenir, elle était d'ailleurs présente au GSM World Congress.
Ouais.
Ce sont des petites puces qui permettent de faire discuter divers appareils entre eux.
Donc c'est utilisé aujourd'hui dans les badges, dans les entreprises, les badges électroniques, le pass Navigo de la RATP également. C'est de plus en plus utilisé dans certaines entreprises. Alors il y a beaucoup d'incidences sur les réseaux informatiques.
Et on va en parler avec Olivier Seznec, qui est directeur de la stratégie technologique chez Cisco France.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors il y a des exemples assez incroyables d'utilisation des RFID. Il paraît qu'on peut même s'en faire greffer sous la peau.
Ah oui, j'ai en tête effectivement un exemple d'utilisation dans une boîte de nuit à Ibiza, où les meilleurs clients peuvent avoir une puce qui va être insérée sous la peau et qui va permettre à la fois de régler leur consommation et puis surtout d'avoir leur adresse pour les ramener chez eux au cas où ils aient un petit peu abusé d'alcool. Bon, c'est l'extrême. On a aussi le cas d'une personne qui s'est fait greffer une puce pour pouvoir pénétrer chez elle sans avoir à utiliser de clé. Maintenant, je pense que l'usage principal du RFID va être quand même pour tracer les objets dans un but soit d'optimisation de la chaîne logistique, soit de sécurisation des produits. Par exemple, on estime aujourd'hui qu'aux États-Unis, il y a 11% des molécules utilisées dans l'environnement médical qui sont contrefaites. Donc on peut assurer une traçabilité complète et par là même l'absence de contrefaçon d'un produit. Idem pour les pièces détachées dans l'aviation.
Malgré tous ces avantages que vous décrivez, il y a quand même beaucoup de craintes autour des RFID concernant le respect de la vie privée. On parle de traçabilité, de flicage. Est-ce que c'est un fantasme ou une réalité ?
C'est une technologie qui peut être détournée de son usage. Si effectivement on peut imaginer qu'on a demain des tas d'objets dans son sac qui ont des étiquettes et que l'on passe devant un lecteur, si l'information peut être corrélée par rapport à un objet, donc savoir que tel numéro sur l'étiquette RFID correspond à tel objet, on est capable d'avoir le contenu complet du sac que la personne transporte. C'est pour ça qu'il y a une législation qui doit être mise en place pour assurer qu'il n'y ait pas de dérive dans les usages. Maintenant, techniquement, il y a plusieurs façons de protéger l'information. On peut assurer un chiffrement de l'information. Donc, seule la personne qui a les bonnes clés va pouvoir déchiffrer l'information. Ou alors, on peut brûler une puce lorsque, on désire ne plus pouvoir la lire par la suite.
Olivier Seznec, quel type d'infrastructure faut-il derrière pour que ça fonctionne ?
Alors effectivement, la RFID est en train de changer totalement la façon de concevoir les réseaux. Pour assurer une lecture pertinente, il faut que l'on puisse réagir quasiment en temps réel lors du passage d'une puce devant un lecteur. Et donc le réseau doit travailler en temps réel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un réseau, généralement, a des temps de réponse de l'ordre de 1 seconde, 2 secondes. Là, pour être pertinent, il faut être capable de réagir vite. Lorsque vous passez devant votre lecteur Navigo, vous n'allez pas attendre 2 secondes pour qu'on vous ouvre la porte. Il faut que vous puissiez passer sans interrompre le flot des usages. Et pour cela, il faut un réseau de temps réel. Et ça change beaucoup de choses au niveau de la construction et de l'architecture des réseaux.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci beaucoup.
C'était un plaisir. À bientôt sur le podcast, alors.
Oui, entendu. Voilà. Puis on va conclure avec des choses un peu plus légères. François, qu'est-ce que tu es en train de chercher sur eBay ? Là, ça ressemble pas à du matériel informatique.
Non, je suis sur eBay et je suis en train de me demander si je vais pas surenchérir pour passer un dîner, une soirée avec Vanessa Demouy.
Oh là là, je peux venir ?
Alors, tu peux venir. Non, tu ne peux pas venir.
Et en ça fait, coûte combien ?
Alors, ça coûte
24 000 euros.
Plus de 24 000 euros pour l'instant. Et à l'heure où nos chers auditeurs écouteront ce podcast, peut-être que ça sera encore plus élevé le prix.
Ouais. Oui, alors c'est tout à fait respectable quand même.
Tout à fait, puisque en fait l'argent qui sera récolté sur eBay sera reversé en fait à une association qui s'appelle Rêve et qui a pour vocation d'exaucer les souhaits les plus chers d'enfants atteints de maladies dont le pronostic est réservé. Et je trouve plutôt sympathique que des filles comme Vanessa Demouy participent à ce genre d'initiative. Et ça peut être sympathique de dîner avec elle. Hein,
bien sûr. Bon, écoute,
on sait jamais.
Bon dîner.
Peut-être qu'elle peut tomber amoureuse de moi.
Oui, ça m'étonnerait, mais tout est possible après tout dans le monde virtuel. On se retrouve la semaine prochaine, François, c'était le dialogue numéro 5, et en principe, à bientôt pour le 6.
Enfin, en principe, je ne sais pas, après ce que tu as raconté sur moi, je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine.
Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue, tous les mardis sur cisco.fr.